On m'a appelé à cette nouvelle mission il y a à peu près 10 mois. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que mon rôle d'évêque au Liban, dans ce pays, soit pour une partie finalement du peuple libanais qui sont des latins. D'habitude, toujours on me demande combien est-ce qu'ils sont les latins, donc les romains catholiques. Bon, et je réponds toujours qu'ils sont autour de 15 000, mais il ne s'agit pas de nombre. À part les latins, il y a toutes les congrégations religieuses latines présentes sur le territoire libanais, qui sont au nombre de 45, entre congrégations masculines, féminines et communautés nouvelles. Et ce sont ces congrégations-là qui, au cours des siècles précédents, du siècle précédent du moins, ont aidé à ce que le pays se développe du point de vue culturel, éducatif, et aussi de développer les soins, les hôpitaux, la proximité, du plus pauvre à travers des dispensaires, à travers des présences un petit peu partout dans le pays. Ça, c'est un côté. L'autre côté est que le Liban est un pays qui est confessionnel. Donc, du coup, il faut que l'évêque fasse un petit peu quand même, non pas de la politique, mais qu'il demande aux politiciens de faire leur travail au niveau du respect du citoyen et de rechercher le bien-être commun de tout le monde. Et cela pose beaucoup de problèmes parce que les différents services au niveau de l'État sont divisés entre chrétiens et musulmans, mais aussi pour les parties musulmanes, ils sont divisés entre sunnites, chiites, druzes, etc., et pour les chrétiens aussi. Ce qui fait que si nous sommes très peu nombreux, on n'a pas le droit d'accéder à certains postes puisque nous sommes six communautés considérées minoritaires. Donc, s'il y a un seul poste de capitaine, par exemple, dans l'armée libanaise, donc s'il y en a six candidats à ce poste, disons un latin, un arménien catholique, un syrien catholique, donc c'est un seul qui doit passer. Et malheureusement, ce n'est pas toujours selon les capacités, les compétences, ce qui fait qu'il y a de la difficulté. Voilà, et je dois la prendre en considération aussi.
Vous aviez lancé un appel justement aux politiques en leur disant on aimerait, nous, aux chrétiens, être plus représentés. Vous arrivez alors à dialoguer avec les politiques?
Il s'agit de comprendre un petit peu la pensée qui sévit dans ce pays et de comment les choses fonctionnent. Donc pour l'instant, je suis un observateur à long terme, disons, ça fait 10 mois et je vais continuer à le faire. En plus de ça, évidemment, il y a les relations avec les autres églises, soit catholiques, soit l'ouverture aussi œcuménique et l'ouverture interreligieuse. Donc tout cela prend beaucoup de temps dans le pays parce que il faut du temps pour les relations, pour les créer. Moi, je suis encore tout à fait au début.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible de vraiment créer un dialogue interreligieux pour justement un peu apaiser l'idée que les chrétiens ne sont pas assez représentés, etc.?
Il n'y a pas de problème pour faire un dialogue interreligieux, hein. Quand il y a des congrès, quand il y a des rencontres, tout le monde est très gentil avec tout le monde. Et nous avons de belles interventions aussi qui remettent souvent l'homme au centre de l'intérêt commun, de la vie aussi, et même de la vie de Dieu, souvent, c'est le cas. La deuxième chose, disons que cet éloignement, entre guillemets, me permet encore aujourd'hui de regarder un petit peu de dehors ce qui se passe sans pour autant m'impliquer intérieurement, de me laisser entraîner par le fait de dire « Ah oui, il faut qu'on crie parce que nous avons des droits ». Je pense qu'il faudra changer de discours. C'est-à-dire, dans ce pays, et comme ailleurs aussi, pour un chrétien, il ne s'agit pas de parler de droits, mais de parler de services. Et quand je dis « je parle de services », ce n'est pas pour dire que nous avons le droit d'accéder à certains postes, mais nous avons le droit de servir notre pays. Et quand je parle de ça, je veux dire que quand nous divisons les postes dans un même pays entre des certaines catégories qu'on peut qualifier de A, B, C, D, et que moi je suis D, c'est-à-dire que automatiquement, il n'y a plus de pensée de service, mais il y a une pensée de pouvoir. Donc moi, j'ai le droit d'être, par exemple, Premier ministre, j'ai le droit d'être président de la République, j'ai le droit d'occuper ce poste. Donc ce poste n'est plus tant vu comme un poste de service et que le fait de conquérir ce poste devient aussi de conquérir un poste de pouvoir, vu de cette façon. Et donc, je pense qu'il nous faudra changer de langage pour pouvoir aussi changer de mentalité. Moi, quand par exemple un de mes fidèles m'appelle, me dit, moi je n'ai pas le droit de devenir capitaine, je le comprends pleinement, mais on mine le langage et dans ce sens-là, ce qui suit et la compréhension de ce qui suit. Je pense qu'il faudra aussi sortir de ce discours sectaire aussi, ou confessionnel, pour aller plus loin. C'est-à-dire que si je veux être fidèle à l'Évangile, je dois être fidèle aussi à l'homme. Le pape François est très clair sur ça. Et les hommes, c'est nous tous. Parce que dans notre pays, nous vivons tous ensemble. Et c'est inutile de parler de chrétiens et de musulmans d'une façon qui nous sépare les uns des autres. Dans chaque famille libanaise, vous allez retrouver des membres d'une même famille qui sont et catholiques et orthodoxes, peut-être aussi protestants, et des musulmans. Et donc, si on veut voir les ramifications de nos familles qui sont libanaises, disons, souvent, nous formons la réalité libanaise dans nos propres familles. Hein. Et dans nos lieux de travail, c'est la même chose, partout, partout. Et ce n'est pas parce que l'un est chrétien, l'autre est musulman qu'il a des problèmes. Ça, c'est un faux problème. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la vérité des choses et à ce qu'on appelle aussi la citoyenneté, parce que je dis à ce qu'on appelle parce que tous on veut parler de citoyenneté, mais en fin de compte, réaliser ça sur le terrain, ce n'est pas évident. Mais par exemple, les services que l'État doit offrir, il doit les offrir à tout le monde. Et rechercher le bien commun, c'est le bien commun de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des manifestations. Aujourd'hui même, 25 juillet, il y a eu des manifestations dans la matinée contre le dépotoir qu'il y a à Bouchhamout. On va et on jette tout ce qu'on a là-bas. Et les gens qui sont affectés, hein, par tout ce qui se passe, parce qu'en été, et pas seulement en été, tu as les odeurs qui sont là, tu as toutes les conséquences et climatiques et sur la vie des personnes. Les personnes qui sont malades, les enfants qui meurent, ce sont nos enfants. Et je pense que c'est important. Là, on ne lutte pas pour un chrétien ni pour un musulman, on lutte pour un pays, pour les gens qui sont là et qui ont aussi le droit de vivre, et de vivre en dignité quand même. Et ça, c'est un exemple, mais je peux étendre la chose sur beaucoup d'autres exemples qui montrent que finalement, ou bien on se met ensemble, si vous voulez, comme confession religieuse, et pour rappeler tous ensemble à nos politiciens que ça ne peut pas continuer de cette façon.
Mais est-ce que vraiment, dans la réalité, un chrétien au Liban, il réalise qu'il doit d'abord être citoyen? Est-ce que c'est possible cette avancée-là, ce pas-là?
Il y en a beaucoup qui le pensent. Il y en a beaucoup qui le pensent, même si pour certaines petites choses, il est obligé d'être, disons, ou maronite, ou grec orthodoxe, ou sunnite. Non, mais la majorité des gens n'a pas vraiment ce problème.
Mais c'est quand même important de se sentir membre d'une communauté chrétienne ou musulmane ici.
Oui, c'est important,
C'est
comme
une
ça l'est important
identité.
aussi partout dans le monde. D'être intégré dans une communauté de foi qui m'aide à développer ma foi, qui m'aide à grandir, qui m'aide à assumer mes responsabilités aussi d'homme un petit peu partout et à grandir dans cette dignité. Mais appartenir à une communauté pour que ce soit un élément de division, non.
Et quelles sont les autres difficultés dont vous vouliez parler comme citoyen au Liban?
Nous avons connu la guerre civile de 75 à 90. Depuis 90, quand même, le pays essaie de se développer. Pourquoi nous n'avons pas encore un pays capable de générer l'électricité 24 heures sur 24 pour ses propres citoyens, ça c'est incompréhensible. Pourquoi nous ployons encore sur le poids de dettes, c'est encore incompréhensible. Voilà. Et donc il y a mille et une choses encore que déjà, si tu veux, dans le temps, le président de la République actuelle avait dénoncé en mettant ça sous un certain titre qui était très clair, qui l'est encore aujourd'hui, que le citoyen doit chercher à obtenir une faveur d'un homme politique, mais en fait c'est son droit qu'il est tout simplement en train de demander. C'est-à-dire, je te demande la faveur de me donner mon droit. Et etc. Il y a aussi les problèmes sociaux liés aux organisations, aux écoles, par exemple, semi-gratuites, qui ne peuvent survivre que grâce à l'État et à l'aide de l'État, parce qu'il y a un contrat entre eux et l'État, et l'État ne comble pas, donc ça part des choses, ni au niveau des hôpitaux. Et donc, il y a une situation généralisée qui met mal à l'aise tout le monde.